Auditeurs, auditrices, bienvenue si vous nous rejoignez sur le 99.5 FM. C'est aujourd'hui, lundi 23 juin, la 16e d'I Love Mes Cheveux, une émission diffusée deux ou trois lundis par mois, sauf en juin, cinq fois par mois, de 9h30 à 11h, en direct ou pas, et aujourd'hui on n'est pas en direct. Et évidemment en podcast, toujours. Donc aujourd'hui, on n'est pas en direct, vu que l'émission est enregistrée le 12 juin, 11 jours en avance. C'est, voilà, c'est pour expliquer si jamais il se passe des catastrophes dans le monde entre le 12 et le 23. Nous, dans le studio, on n'est pas au courant. I Love Mes Cheveux, comme son nom ne l'indique pas, c'est une émission consacrée à la traduction et au plurilinguisme. Je suis Guillaume Singal et à mes côtés, mon invité aujourd'hui, Norbert Danis. Norbert, bonjour.
Bonjour.
Et Norbert et moi, on ne se connaît pas depuis très longtemps, mais on se connaît, donc on se tutoie et donc on va se tutoyer. Voilà, on se connaît depuis les Assises de la traduction d'Arles en 2023, si mes souvenirs sont bons.
Moi, je te connais depuis plus longtemps, mais tu ne le savais pas.
Ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait partie des, tu fais partie des gens qui me stockaient sur les réseaux. Je close cette intro en rappelant qu'il y a un compte Instagram dédié ILMC2025. ILMC en minuscule, tout attaché 2025. On peut s'y abonner pour ne rien rater des annonces et des podcasts et on peut même commenter en direct. Alors, pas aujourd'hui, on peut commenter quand même, hein, c'est pas grave. Sous la dernière publication, celle avec le nom de l'invité, aujourd'hui Norbert Danis. Alors, vous pouvez toujours poser vos questions, on n'y répondra pas puisqu'on n'enregistre pas en direct. Mais vous pouvez quand même poser vos questions ou émettre des commentaires. L'émission a vocation à rester en podcast, à lancer le débat. Et la rubrique Le mot du jour, aujourd'hui, il n'y en a pas. Et donc, c'est l'occasion pour moi juste d'expliquer un petit peu. Ouais, je suis un peu à l'arrache sur cette émission. Je présente tout de suite mes excuses auprès de mon invité et auprès des auditeurs et des auditrices. J'espère que ça ne se verra pas trop. Bon, de toute façon, je l'ai dit. Il n'y a pas de mot du jour, mais je profite de la vacance dans la rubrique Le mot du jour pour signaler tout d'abord ce que je signale régulièrement, à savoir que s'il y a des volontaires qui veulent la faire à ma place, je prends toutes les offres de service. Et d'autre part, pour redonner une petite explication, parce que depuis maintenant 5 mois que l'émission a été créée, très régulièrement, on me dit « Mais c'est quoi ce titre? C'est quoi ce nom d'émission I Love Mes Cheveux? D'où ça vient ?» Alors, je ne sais pas si Norbert, tu as l'explication ou pas.
C'est pourtant clair, je ne sais pas s'il faut vraiment expliquer.
si tu as l'explication, vas-y. Hein. Alors, on a pas
non,
du tout.
Je te laisse raconter.
Alors, en fait, c'est vrai que ça n'est pas marqué sur toutes les publications Instagram, ça n'est pas marqué sur toutes les pages de podcast, mais c'est marqué sur la. C'est expliqué, enfin, en tout cas, la photo qui sert de logo à l'émission se retrouve quand même sur un certain nombre de publications. Et en fait, c'est le nom d'un salon de coiffure à Melbourne. Alors, j'ai pris cette photo en 2010, donc j'avoue que je n'ai pas vérifié si. Si le salon de coiffure existe toujours à la forme d'une ville, etc., comme disait Baudelaire, que j'arrive même pas à citer, comme quoi, ça va être n'importe quoi aujourd'hui, je te préviens tout de suite. Hein. Et donc, je ne sais pas si le salon de coiffure existe toujours, mais j'avoue que ça m'avait amusé à l'époque de prendre en photo ce salon de coiffure, qui pour une fois n'était pas un jeu de mots, parce que même en anglais, hein, on connaît, hein, c'est quasiment un genre à part, les jeux de mots planète R, faudratif R, enfin tous ces trucs-là, diminutif, enfin tout ça. Mais même en anglais aussi, dans les pays anglophones, il y a souvent des jeux de mots dans les salons de coiffure. Donc là, ce n'était pas un jeu de mots, c'était un jeu sur les langues, avec un plurilinguisme un peu brut de décoffrage. Et c'est vrai que quand j'ai réfléchi au nom de l'émission. J'avais plein d'idées dans tous les sens et puis j'avais pas envie d'avoir une énième émission et je ne critique pas en soi les émissions ou les podcasts qui ont fait ce choix-là, mais je n'avais pas envie d'avoir une énième émission avec, avec des métaphores, traverses, Babel, je sais pas, enfin voilà. Et donc j'ai trouvé ça complètement décalé et complètement idiot. Donc,
complètement décoiffant.
Complètement décoiffant, absolument. Jusqu'à présent, je n'ai d'ailleurs invité que des invités qui avaient plus de cheveux que moi. Donc c'est encore le cas aujourd'hui. Et bon, c'est difficile d'en avoir moins, mais en tout cas, on pourrait en avoir aussi peu que moi. Donc jusqu'à présent, je crois que ça ne s'est pas trouvé. Et donc voilà, donc c'était à la place du mot du jour, une petite explication sur le nom de l'émission. Et on en vient à notre invité du jour, qui n'est pas trop décoiffé par le casque de Radio Campus, Norbert Danis. Alors Norbert n'est pas tourangeau, donc on est très heureux aussi parfois de, comme d'ailleurs il y a deux semaines pour Alex Dico, on est très content de prendre un petit peu par la manche les invités de passage ou les personnes de passage qui ont des choses intéressantes à nous raconter sur le sujet de l'émission. Et donc, Norbert, je vais te laisser te présenter. Si je dis que tu es doctorant, je ne sais jamais si on dit en études sinophones ou en études de civilisation et littérature chinoise, et que tu es de passage notamment pour des événements qui ont lieu cette semaine quand nous enregistrons. Donc, c'est autour du 10-11 juin, autour du laboratoire Intrus. Donc, est-ce que tu peux juste compléter ma présentation qui est très, très, très fragmentaire?
Oui, moi je suis doctorant en études chinoises, on dit en général. Les intitulés changent en fonction des universités. L'université dans laquelle je suis inscrite, c'est l'université Lyon 2, Lumière Lyon 2, à Lyon. Dont l'intitulé pour cette section est, je crois, études de l'Asie et de ses diasporas. Donc c'est quand même assez large. Et en même temps, de façon générale, on dit entre nous études chinoises, comme on peut dire études anglaises, même si on ne parle pas uniquement de l'Angleterre quand on fait des études anglaises, il me semble.
Tout à fait.
Et je suis à Tours cette semaine pour participer aux événements de mon laboratoire de rattachement secondaire, qui est le laboratoire Intrus, interaction, transfert et rupture artistique et culturelle. Qui est à Tours, qui est à l'université de Tours, un tout petit laboratoire. Je crois que c'est le plus petit laboratoire de l'université, la plus petite équipe d'accueil. Il y a une dizaine de titulaires et 7 ou 8 doctorants et doctorantes. Et nous avions cette semaine l'Assemblée générale du laboratoire et la journée doctorale hier, qui s'est très bien passée.
D'accord, donc ça c'était, on va en reparler, donc ça veut dire l'AG le 10 juin, la journée d'études doctorales, c'est comme ça que tu l'appelles?
C'est une journée doctorale parce que c'est que les doctorants qui s'en occupent, qui invitent aussi une personne qui n'est pas doctorante en général depuis quelques années, un peu comme un invité qui est invité à parler un peu plus longtemps que les autres sur le thème qui a été retenu, parce qu'en fait oui il y a un thème, donc ça devient quand même un peu comme une sorte de journée d'études parce que les doctorants et doctorantes font l'effort de se plier à ce thème-là. Et
de rentrer dans le thème un petit peu de la journée. Oui. Ok, cette année c'était quoi, puisqu'on est en train de, justement, puisque tu en parles.
Cette année le thème c'était celui de la copie, entre transparence et opacité.
Ok, et donc, pour les personnes qui se diraient, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre, donc tu es lyonnais, on peut dire ça comme ça, en tout cas de rattachement principal, tu fais ta thèse à Lyon, ton labo principal est à Lyon, mais, et c'est aussi comme ça qu'on a pu se voir plus régulièrement depuis qu'on a fait connaissance à Arles, tu viens au moins une fois par an, et même je crois plus souvent que ça à Tours, puisque Intrus est ton laboratoire de rattachement secondaire. Alors j'ai l'impression que tu, c'est pas juste pour passer la pommade ni à toi ni au labo, mais c'est pour dire que le laboratoire Intrus, tu disais, est le plus petit labo en termes de nombre de personnes. Alors si vous allez, je vous invite à aller voir un petit peu sur la page du labo, sur les publications, etc., ce qu'ils font, c'est loin d'être le plus petit en termes de dynamisme. Ce qui est un petit peu marquant dans ce que tu dis, c'est pour ça que j'ai pris le temps de le réexpliquer, c'est que tu as l'air d'être presque plus investi dans ton labo de rattachement secondaire que certaines personnes parfois dans leur labo de rattachement principal. Donc c'était pour bien clarifier ça. Donc il y avait l'AG mardi. Le laboratoire Intrus, rapidement, est-ce que tu sais depuis combien de temps il existe? J'avoue que j'ai pas vérifié, et surtout plus important quand même, quelle est la thématique principale ou qu'est-ce qui vous réunit, puisque par exemple, ça n'est pas un laboratoire de chercheurs en littérature asiatique, par exemple.
Non, pas du tout. C'est un laboratoire qui existe depuis, je pense, à peu près une quinzaine d'années, mais en tout cas, au moins une quinzaine d'années.
Oui, je pense aussi. Ouais.
Alors, les quatre membres fondateurs du laboratoire sont à peu près tous partis. Il reste une de ces membres fondatrices qui est France Nerlich et qui est encore aujourd'hui détachée à Paris, donc qui est même plus vraiment dans les murs de l'université de Tours, même si donc elle est encore là statutairement. Et le laboratoire au départ était, du fait de ses membres fondateurs, plutôt un laboratoire d'histoire de l'art avec une grosse composante architecture. Et puis, petit à petit, les objets du laboratoire se sont un peu étendus. Ça reste toujours du côté de l'histoire de l'art, du côté de l'histoire de l'art visuel, principalement, et de l'art aussi assez populaire, en fait. Il y a des objets comme la bande dessinée, comme l'album jeunesse, qui ont pris une part vraiment importante ces dernières années. Mais il y a aussi des personnes qui travaillent sur plutôt le graphisme, plutôt la photographie aussi. Et là, très récemment, sur l'art radiophonique aussi. Donc, il y a même les sound studies qui deviennent de plus en plus, qui se rattachent aussi finalement au laboratoire.
Alors, c'est intéressant parce que tu m'as appris ça un peu en off, juste avant qu'on démarre l'émission. L'intégration des sound studies, tu m'as dit notamment qu'il y avait un doctorant qui travaillait sur l'art radiophonique. Donc, je pense que ça ne va pas tomber dans l'oreille d'une sourde parce que je pense que Mélissa... qui est responsable d'antenne à Radio Campus entendra ça avec intérêt et qu'elle va certainement se rapprocher des personnes concernées. Alors quand tu disais effectivement bande dessinée, roman graphique, livre graphique, livre, album jeunesse, etc. Ben, c'est notamment lié à la présence de deux collègues titulaires que je vais saluer, qui sont ceux que je connais moi vraiment bien, on va dire, dans le laboratoire Intrus. Cécile Bouler, qui est rattachée à la faculté Lettres et Langues et qui est effectivement une des grandes spécialistes du livre jeunesse et de l'album jeunesse. Et Laurent Gerbier, qui est spécialiste d'un certain nombre d'autres choses, mais notamment, entre autres, de bandes dessinées et de romans graphiques et qui, je crois, anime des ateliers lecture de planches.
Oui, alors en fait, les activités du laboratoire... sont assez fournis, c'est vrai, hein, tu l'as dit, pendant l'année. Il y a beaucoup de journées d'études, beaucoup de colloques. Et puis, les activités régulières, c'est le séminaire du laboratoire qui est panaché tous les ans avec quelques ateliers de lecture de planches qui sont, ces derniers temps, souvent pris en charge par Laurent Gerbier, mais qui sont aussi pris en charge parfois par des invités hein, qui sont de l'université de Tours ou pas d'ailleurs, hein, qui sont invités et qui s'intéressent souvent à une planche de bande dessinée décortiquent et qu'ils éclairent avec d'autres planches éventuellement et qu'ils remettent en perspective pendant une grosse heure.
Parce qu'on va y venir, toi c'est ta spécialité aussi, la bande dessinée, parce que là on part un peu du labo, on va du plus général ou du plus collectif au plus individuel dans cette émission. On va ensuite expliquer à nos auditeurs, auditrices, pourquoi c'est toi qui viens parler, parce que tu as plein de choses passionnantes à nous dire sur ces questions et sur les questions de traduction et de plurilinguisme. Donc stay tuned, hein, on va être totalement dans le sujet de l'émission. Et je ne sais plus du coup, parce que j'ai fait 14 parenthèses selon mon habitude, mais je ne sais plus très bien où j'en étais. Oui, le fait que les spécialités en lecture de planches, ça implique aussi, ou les ateliers en lecture de planches, ça veut dire aussi parfois interroger la pertinence même du concept de planche. C'est-à-dire qu'il y a un très grand nombre de graphistes, de dessinateurs, dessinatrices depuis, j'allais dire récemment, mais non, en fait depuis assez longtemps, qui remettent en cause même ce principe de planche. Il y a des planches qu'on ne peut pas lire seul, il y a des planches qui ont des versos, enfin, on travaille parfois sur la double page, enfin, donc je suppose que vous travaillez aussi sur ça dans ces ateliers.
Oui, totalement. Et c'est peut-être là que je peux commencer à parler de mon sujet.
Vas-y. De thèse, tu es en troisième thèse, année.
Moi, je suis en quatrième année. Et précisément, dans la bande dessinée chinoise, le concept de planche est assez inexistant, en fait, jusqu'aux années 90. Donc, cet atelier lecture de planche, en fait, ça peut être aussi l'occasion de parler d'une forme de composition iconotextuelle à l'échelle d'une page, en fait, pour être un petit peu plus général et un peu plus englobant. Et donc ça peut être en fait aussi des lectures d'une page de littérature jeunesse dans lesquelles l'image et le texte s'agencent d'une certaine façon, ou ça peut être aussi une lecture, par exemple, voilà, d'une image de bande dessinée chinoise qui tient en une petite page, puisque les formats de la bande dessinée chinoise sont ceux, le plus souvent au XXe siècle, d'un tout petit livre au format à l'italienne qui tient dans la poche avec une seule image par page, donc au format paysage, et le plus souvent pas de bulle, mais un tout petit texte en dessous de l'image.
Alors on va en venir à ça, et je vais te poser une question que tu auras tout le temps de la pause musicale pour méditer, parce que moi, quand tu me dis ça, je me dis, est-ce que ça veut dire, donc, tu vois, tu as le temps d'y réfléchir, est-ce que ça veut dire que, à l'aune notamment de ton expertise en BD chinoise, mais peut-être aussi d'autres pays d'Asie notamment, est-ce que ça veut dire que finalement, quand on parle d'une planche ou quand on pense à la bande dessinée dans son format 48 ou 64 pages avec un format portrait, ou quand on pense au roman graphique qui finalement finit lui aussi par avoir une espèce de format très normatif. Enfin, là, je pense que 80% des romans graphiques, je ne suis pas du tout spécialiste moi, des romans graphiques publiés en France par exemple ont un format qui est un petit peu plus volumineux et un petit peu plus petit, mais également généralement en portrait. Est-ce que ça veut dire que ces concepts de planche ou de format sont eurocentrés ou occidentalisés? Voilà. Donc je reposerai la question, peut-être en faisant moins de parenthèses, après la pause musicale. Mais la pause musicale, c'est le choix de l'invité. Donc Norbert, tu vas peut-être nous dire deux mots. On va commencer par du rap en ouïghour, si je ne m'abuse, avec At3 Arslan et Ghetto Boys, si je ne...
Ghetto Boys, c'est le titre de la chanson.
Ah, c'est le titre de la chanson, pardon. Parce que c'est vrai que comme il y a écrit Ouïghour Rap, du coup,
rappeur ouïghour qui rappe, okay. Pour commencer. Vous allez entendre que Ghetto Boys, c'est le nom du... C'est ce qu'on entend en anglais dans le refrain. Mm-hmm. Et puis on a quelques couplets en ouïghour et d'autres par un autre rappeur en mandarin. D'accord. Et puis la musique commence par un sample aussi dans encore une autre langue.
D'accord. Donc en fait, tu as pleinement joué le jeu de l'émission que tu connais bien. Je pense que Norbert me disait qu'il avait tout écouté. Je pense que même moi, j'ai pas tout écouté. J'étais là pendant qu'on faisait les émissions, mais j'ai pas tout réécouté. Donc, déjà, merci de ta fidélité. Et donc, tu as joué le jeu de l'émission en proposant ici un titre dans lequel, si j'ai bien compris, on entend quatre langues différentes. Et je suppose qu'il y a aussi, mais tu pourras éventuellement aussi commenter là-dessus, une signification politique à faire coexister dans un morceau de 2019, si j'en crois la date de la vidéo YouTube, mais c'est pas toujours tout à fait fiable. Le mandarin et le ouïghour, quand on sait ce qui se passe en Chine. Mais trêve de commentaires, je te laisserai commenter de manière plus autorisée après la chanson.
S'aimer d'amour tendre, mais l'un d'eux a quitté leur toit. Ils sont longs, les jours de l'attente, et longues sont les nuits. Майда турмас эдэ махтамай да дада сене турмас эдэ хос уула берди дада сене хат сене алтын кылды яп сене чилди хат нах шуланын бир сайран калдырып атты мана сене а дигенлерим рас микрофонус катта амма кирим аз кылы башын эткен яз кес домышлады мас паран кыган балла амды хут кес кес чуен кеп вас вас уна өстө мени күнүм яхшы бир майдан мусам кирим яхшы уула дада сенин асырларын яхшы чүнки өзүм гыла кеске ерим яхшы what's up Get a boys, get a boy. West side. Get a boys, get a boy. West side.
人分走了，删掉了幻灯火城，无所谓钱或尘，你可以把他们当作街头的合伙人，在别一摸一下的身份来看待我们，装上翅膀飞出鸟都飞出来的 Ghetto Boy、哎、Sorry 让你担心打不回太强的 Ghetto Boy， 301的地下找到你的 Ghetto Boy， 记住手里存着梦都不止一个 Ghetto Boy、哎、从来没有学过 Run Away、哎、从小习惯界限很模糊的白和黑、哎、动力就像家里火炉正在烧的煤、哎、第一桶金太黑了，因为才12岁也得背，早就习惯你的爸爸拿起电话不通电话号码，而我还在天真的在奋斗，早就习惯不被正眼看的，但是现在打开手机看到你发来的借钱问号。
What's up, what's up, get a boy, get a boy, what's up, what's up, get a boy, get a boy, what's up, what's up, get a boy, get a boy, what's up, what's up, get a boy, get a boy。
Et de retour dans le studio de Radio Campus avec un fading de quasi professionnel. Je ne sais pas, on verra, vous jugerez, vous pouvez commenter les fadings aussi. Mais plus intéressant, on va commenter un peu ce qu'on a écouté. Donc je le rappelle, même si je n'ai plus l'info sous les yeux, tu vas me rappeler ça, Arslan, c'est ça, je ne sais plus.
A3 Arslan, c'est le nom du rappeur Ouïghour qui chante la première partie de cette chanson. C'est une chanson que j'ai découverte en écoutant... une playlist consacrée à la musique ouïghour qui comprenait des morceaux très traditionnels, des morceaux de chant, de prières presque, ou du folklore, et en même temps aussi des chansons plus urbaines, comme on dit, hein, comme celle-ci.
Avec un feat en mandarin.
Voilà, c'est donc ça,
toi,
avec un feat en mandarin.
Toi, tu comprends évidemment le feat en mandarin.
Je comprends un peu mieux le feat en mandarin. Alors, le Ouïghour, là, pour le coup, je ne comprends pas du tout, effectivement. Et c'est une chanson que j'ai passée plusieurs fois à mes étudiants et étudiantes quand je faisais un cours sur les langues. Les langues en Chine, la diversité linguistique en Chine, les politiques linguistiques en Chine et dans le monde chinois en général. Et c'est une chanson que j'utilise un peu pour leur faire entendre aussi les langues. Et donc je leur demandais par exemple d'écouter et de reconnaître les langues qu'il y avait. Et j'étais un petit peu désemparé au départ puisque le Ouïghour, on le disait en antenne, ressemble énormément au turc, que je ne parle pas non plus. Et le turc ayant emprunté un grand nombre de mots à l'arabe, en fait il y a quelques étudiants qui par ailleurs parlent arabe, qui ont reconnu quelques mots et qui se disaient « Ah mais cette langue-là, c'est de l'arabe qu'on chante avec le chinois ». Alors que non, en fait, j'ai quand même demandé confirmation à une amie qui parle et arabe et turc, et qui a pu me dire que non, c'était vraiment pas de l'arabe, et que ça ressemblait vraiment beaucoup au turc, oui.
Donc des langues qui sont évidemment le produit, on ne le dira jamais assez, d'une histoire faite de conquêtes impérialistes. Enfin, j'avoue que j'ai jamais fait de recherche dessus, mais j'avais déjà entendu dire que le Ouïghour était en fait une variante régionale du turc. Je ne sais pas si c'est très politiquement correct de le dire comme ça ou si c'est à nouveau un peu néocolonialiste de le dire comme ça. Mais en tout cas, c'est très très proche du turc. C'est...
Oui, il y a un continuum en Asie centrale entre le turc, les langues parlées en Azerbaïdjan, il me semble, et puis les turkmènes, et puis le Ouïghour, donc jusqu'en Chine, quoi.
Mm-hmm. Et donc voilà, donc c'est évidemment une chanson que moi je découvre et qui aussi politiquement, enfin moi je comprends pas du tout les paroles, enfin je comprends un peu évidemment le sample en français au début, ça va, et puis là, évidemment les reprises les mots très brefs, enfin les vers très brefs en anglais. Je comprends pas les paroles, mais je subodore quand même un message politique dans le fait de faire coexister ou juxtaposer du mandarin et du ouïghour, puisque bon... Cela fait maintenant de nombreuses années qu'il y a, alors là encore les spécialistes s'étripent sur le terme génocide, pas génocide, etc. Bon, en tout cas des répressions extrêmement fortes, je crois qu'on peut le dire, sur fond de discrimination, qui sont des discriminations à l'embauche, enfin de tout ordre en fait, hein, à l'encontre des Ouïghours. Donc voilà, donc je pense que diffuser un titre comme celui-là, ça n'est pas... Et faire un titre comme ça, je suppose que le rappeur qui chante en mandarin, il n'est pas très très populaire, enfin auprès du gouvernement chinois.
Non, et en fait, en Chine, qu'on soit Ouïghour ou qu'on soit Han, donc de l'ethnie majoritaire en Chine, le fait de rapper, c'est pas non plus très très bien vu de toute façon. Mmh. Alors évidemment, si on est Ouïghour, c'est un peu la double peine. Mmh. Mais le rap est vraiment vu comme une influence de l'étranger, en particulier des États-Unis, et comme une musique qui va débaucher en fait la jeunesse et qui est associée à tout un imaginaire de la débauche. Comme le tatouage aussi, enfin le.
D'accord.
Voilà. Le...
D'accord, donc il y a des marqueurs comme ça qui sont des marqueurs un peu de la. Je suppose que, enfin, dans certaines républiques islamiques, on dirait le grand Satan, mais voilà, enfin, l'Occident, les États-Unis, avec une sorte de fourre-tout, visiblement, de par ce que tu dis, parce que. C'est amusant ce que tu dis sur le rap et le tatouage, parce que par exemple, on ne fait pas du tout cette association-là en France. Il y a des associations et des analogies certainement. Réductrice face au danger possible du rap ou je ne sais quoi, mais pas celle-là en tout cas.
Donc, oui, et en fait, la censure chinoise, de façon générale, depuis déjà les années 50, elle se caractérise pas seulement par des orientations politiques, mais aussi par une certaine pudibonderie et par un conservatisme en fait, de façon générale, sur tout ce qui touche. À l'expression du corps aussi.
Oui, donc c'est pas seulement le rap en tant que forme de musique occidentale, donc je mets des guillemets que vous entendrez ou pas à la radio dans ce que je vais dire, mais dégénéré slash effectivement oui, enfin occidentalisé, donc finalement mettant en danger, je suppose, un tissu culturel chinois propre, authentiquement chinois.
Oui, c'est ça, il y a un nationalisme culturel très très fort quoi, dans ce parti qui se veut communiste et qui ne l'est pas plus aujourd'hui qu'il l'était dans les années 50.
Et d'ailleurs, on va justement commencer à s'intéresser aussi, mais là on parlait vraiment de linguistique, et tu disais d'ailleurs que tu utilisais cette chanson dans tes cours. J'allais dire, on va passer au sujet de ta thèse, mais puisque tu faisais une allusion à ton enseignement, tu enseignes donc dans un département, donc c'est avec des étudiants qui ont commencé le chinois à l'université ou qui ont fait du chinois avant, c'est un département de quoi, de langues étrangères appliquées, comme on a pu, comme on peut l'avoir à Tours, ou est-ce qu'il y a un département de l'LCER, enfin voilà.
Oui, j'ai plusieurs enseignements. Alors pour continuer sur l'éclatement de ma personne entre les quatre coins de la France, en fait les enseignements que je fais sont à Lille.
Donc, c'est
pour ça aussi que j'ai pas forcément été beaucoup à Tours cette année et que je faisais plutôt la navette entre Lyon et Lille. C'est des enseignements qui se partagent entre un département de LEA, donc langue étrangère appliquée, un autre de LLCE, chinois, qui est plus centré sur la civilisation, la littérature, la culture, et des cours qu'ils ont en commun, comme ce cours justement sur les langues et sur la diversité linguistique en Chine.
C'est un cours de quelle année du coup ?
Ça, c'était un cours de master que je faisais.
Oui, parce que j'allais dire, c'est un cours... Enfin, pas forcément toujours pertinent de faire ce genre de cours d'attaque dès la sortie du bac, mais...
Oui, voilà. En même temps, ça permet aussi de poser quelques bases qui, si on les a dès le début, sont pas forcément inutiles.
Mais ça permettrait peut-être de recadrer, peut-être des choses comme ça. Oui.
Mais donc là, j'avais des cours surtout de master, en fait, cette année, et je vais en avoir beaucoup plus de licences l'année qui vient. Donc je vais voir, ce sera une autre expérience quand même, et je ferai d'autres cours que celui-là, d'accord. Plus généraux.
D'accord, donc tu as le grand plaisir de renouveler entièrement tes cours. Ça peut être un plaisir quand on est en thèse et quand on a des cours déjà prêts dans les ou à moitié prêts, parce qu'en fait un cours n'est jamais entièrement prêt. Il y a même certains collègues parfois qui disent, ah, je recycle ce cours. Je suis très admiratif, j'avoue, parce que moi c'est un peu toujours à réinventer. Mais enfin quand même, quand on a, enfin c'est quand même toujours au moins semi-recyclable quand on refait le même cours. Mais donc d'accord, ok. Donc oui, effectivement, j'avais oublié de repréciser que tu étais à cheval effectivement entre Lyon pour la recherche et Lille pour l'enseignement. Et donc on va en venir avant une seconde pause musicale avec la à ton travail, à ta thèse, donc qui porte, puisque tu faisais une allusion, tu disais, et je te laisse l'entière responsabilité de ces propos, étant donné que je n'en ai aucune espèce d'expertise sur le sujet, que le Parti communiste chinois n'est pas plus communiste aujourd'hui que dans les années 50. Mais quand on parle de nationalisme culturel, on connaît quand même un certain nombre de choses sur la prétendue révolution culturelle et ce qu'elle a signifié. Tu travailles sur un corpus de bandes dessinées donc chinoises qui remonte à une époque antérieure à la révolution, me semble-t-il.
Tout oui, ça. Mon travail de thèse, en fait, ça consiste à exhumer, enfin il y a un peu deux parties en fait. Ça consiste d'abord à voir comment il est possible de parler de style de la bande dessinée. Comment est-ce qu'on détermine en fait ce qu'est un style en bande dessinée, en regardant quels paramètres dans l'image, en les faisant converger d'une certaine façon, et en exhumant en fait des catégories stylistiques comme ça à partir des œuvres qui ont été publiées par le passé. Et j'essaie de mettre en pratique cette théorisation sur un corpus de bande dessinée chinoise du XXe siècle. Et effectivement, les œuvres que j'étudie, elles sont publiées entre les années 20 et les années 80. Donc c'est une plage chronologique assez vaste, suffisamment vaste pour pouvoir voir justement des différences, des variations entre les années 20 et les années 80. Et en même temps, ce n'est pas une thèse qui se veut exhaustive. Hein, donc c'est...
Donc tu as choisi justement un bornage, ou tu as choisi avec les personnes qui te dirigent, tu as choisi un bornage qui permet justement de couper court à l'idée selon laquelle il y aurait un avant et un après. Alors même si ensuite je suppose tu rentres un peu dans les détails, mais au moins le bornage de la thèse envoie comme message qu'il y a un continuum étudiable des années 20 aux années 80.
Oui c'est ça, alors il y a beaucoup de ruptures au cours du XXe siècle en Chine, mais s'il y a une rupture au niveau de la bande dessinée, elle se situe plutôt dans les années 80 en fait. Et c'est pour ça que je me suis arrêté à cette décennie-là, puisque c'est dans les années 80 que le format traditionnel de la bande dessinée, dont je parlais juste avant, qui est au format paysage avec une seule image par page, dans un tout petit livre qui tient dans la poche, et qui s'appelle le Lien Huanhua, ce format-là, il tombe en désuétude à partir des années 80, et il y a des petites tensions avec les bandes dessinées qui arrivent de l'étranger, en fait, et qui sont justement fondées sur le modèle de la planche, qui sont des bandes dessinées occidentales, mais pas que. Donc, pour revenir à ta question qui précédait la pause musicale, la planche n'est pas forcément... Enfin, comment dire, elle peut être l'objet
J'avais oublié que je t'avais posé cette question.
Oui, c'est vrai.
C'est bien que tu suives.
La planche peut être récupérée comme un objet... d'ethnocentrisme de la part des chercheurs occidentaux qui parlent de la bande dessinée. Et en même temps, c'est aussi la planche, le modèle de la bande dessinée japonaise, qui n'est pas l'une des moindres dans le monde.
Je crois effectivement ne s'est pas constitué sur un modèle occidental, puisque quand même la planche japonaise avait des caractéristiques vraiment extrêmement singulières aussi.
Oui, alors après, bon, il y a quand même de toute façon des transferts culturels, oui. Hein, et puis au début des années 20, oui, voilà, il y a aussi la bande dessinée états-unienne qui est déjà connue en fait en Chine, au Japon dans les années 20, 30, 40, mais en Chine ça se construit sur un modèle totalement différent qui est le modèle du Lien 33 et qui lui tombe en déclin à partir du milieu des années 80 environ et qui aujourd'hui est vraiment un médium, enfin comment dire, une forme médiatique plutôt très ringarde en Chine. Et aujourd'hui, la bande dessinée qui est publiée en Chine, elle ressemble beaucoup plus, elle a adopté beaucoup plus les codes de la bande dessinée japonaise, en fait.
Alors, Lian Huahua, je prononce très très mal, donc tu as le droit de rire. J'essaie quand même de reprendre le terme. Est-ce que c'était lié, je ne sais pas, à des formes... voilà, je vais te faire remonter en amont de ton bornage de thèse, mais est-ce que c'est lié à des formes liées à l'impression, à la forme du livre tel qu'il s'est développé en Chine, je ne sais pas, au 18e, au 19e siècle, ou est-ce que c'est vraiment, ça a été inventé pour la forme graphique?
En fait, c'est plutôt, c'est lié à ce que tu viens de dire, c'est plutôt une sorte de transformation progressive du livre illustré, qui est un médium très courant en Chine, qui est très populaire à la fin de la dynastie Qing, donc au 19e siècle, enfin, dès les Ming, en fait, mais pendant plusieurs siècles, donc le livre illustré se structure en un marché, vraiment, à destination des classes plutôt urbaines, dans la Chine impériale. Et c'est un dispositif qui laisse une large part à l'image, mais l'image est quand même là pour accompagner le texte. Et c'est au tournant, en fait, du 19e et du 20e siècle que ce livre illustré va se transformer petit à petit, aussi sous l'influence de nouveaux médiums comme la caricature, et le dessin de presse, par exemple, pour petit à petit voir diminuer la part liée, laissée au texte et grandir celle laissée à l'image. Et donc, en fait, c'est là que le texte va se réduire petit à petit à plus que seulement deux lignes qui accompagnent cette image qui reste au format horizontal. Et le livre, comme ça, est donc un petit livret, quoi, un petit fascicule, format à l'italienne, qui émerge donc voilà, au début des années 1900, 1910 surtout, et qui devient un médium vraiment de masse, de divertissement dans les années 20, plutôt dans la société urbaine. Aussi.
Alors même si on est à la radio, on va faire un petit effort parce que tu as notamment apporté un de ces Yann Roy, il me semble-t-il, s'il s'en est un, qui est entre nous deux et qui, si j'essaie de le décrire, est effectivement d'un format inférieur à la carte postale. En fait, je ne sais pas combien ça fait quoi 6 sur 9, quelque chose, 6 cm sur 9, un petit peu plus peut-être, je ne sais pas.
Oui, alors je n'ai pas trop le compas dans l'œil, mais bon, ça dépend aussi des formats. Parfois, il y a des livres avec quelques centimètres de différence.
En tout cas, il est tout petit, il tiendrait même dans une poche de chemise, hein, je pense,
oui,
si j'avais
totalement.
Une chemise. Aujourd'hui, je pense qu'il tient dans une poche de chemise, donc c'est même pas le format livre de poche à la française, c'est nettement plus petit. Ça se lit dans le sens effectivement paysage, et c'est une traduction du, c'est le Lotus bleu, je suppose.
Oui, aussi, c'est ça, c'est le Lotus bleu. C'est la
première
partie.
Je suis pas un grand tintinophile, mais j'ai reconnu jusque là.
C'est la première partie du Lotus bleu. C'est au niveau matériel aussi, c'est là, c'est un petit livret qui a été publié en 1984. Donc il est un petit peu vieux déjà, mais le papier il n'est pas de très bonne qualité non plus, il faut dire ça, c'est un objet banal en fait.
Consommable, hein. Enfin voilà.
Voilà, c'est ça.
Bon, le meilleur marché possible je suppose.
C'est un objet que limite on n'achète pas en fait et qu'on loue, ou alors qu'on lit dans la rue, ou qu'on lit à l'usine, ou à l'école, ou dans le train. C'est vraiment omniprésent dans la culture populaire et dans la culture visuelle chinoise dans la deuxième partie du XXe siècle. Et c'est un objet qu'on garde pas forcément, qu'on achète pour le prêter ou pour le redonner. Et ici, c'est effectivement une traduction de Tintin.
Mmh. Alors je découvre, il fait 190 pages. Tu dis que c'est la première moitié parce que
c'est la première moitié.
De fait, il y a deux ou trois cases maximum. Là, je le feuillette et je le découvre.
Voilà, c'est
deux
ça.
Ou trois cases maximum. C'est en noir et blanc aussi. Parce
c'est en noir et blanc à l'intérieur. Absolument. Couleur, la couverture est en couleur. Voilà. Mmh. Et l'intérieur est en noir et blanc. Et pour faire rentrer en fait l'album franco-belge de Tintin dans ce format de Lien 3-3, il faut deux Lien 3-3.
De 200 pages chacun, à peu près.
À peu près, voilà, c'est ça.
On fait 400 fois 2, 3 cases et le tour est joué, en quelque sorte.
Et donc ça, c'est publié dans les années 80, et c'est justement le moment de rencontre et de tension, en fait, entre la planche, les bandes dessinées en planche, qui sont importées en Chine, qui sont diffusées, qui sont traduites, et qui, en fait, qu'on essaye de faire rentrer dans ce format traditionnel chinois du Lien 3-3. Et ça ne marche pas, en fait. Mmh. Et c'est à partir de là que le format du Lien 3-3 devient quelque chose de ringard, qui n'est pas adapté à la bande dessinée étrangère, considérée comme étant moderne, et notamment celle du Japon, qui est encore plus diffusée que les Tintins.
Alors, ça me rassure en un sens. Je disais que je ne suis pas un grand tintinophile. J'ai même quelques réserves à l'égard de l'évidence culturelle que représente Tintin, même si le dessin est génial. Alors, je suppose que c'est un peu exprès que tu rapportes le Lotus bleu, parce que je pense que c'est je ne sais pas très bien quelles sont les lectures que font les Chinois en général des bandes dessinées quand même très orientalisantes, très caricaturales quand même sur le. Est-ce que justement cette bande dessinée elle est lue autant que tu puisses le savoir, ou elle est lue autant que tu puisses le savoir, voilà, comme un objet de divertissement, ou est-ce qu'il y a quand même eu des critiques politiques, je sais pas très bien quel adjectif utiliser.
Alors je sais pas exactement comment est perçue cette bande dessinée là en particulier. Ce que je peux dire, sans forcément me faire l'avocat de Hergé, c'est qu'à partir de Lotus Bleu, ces bandes dessinées sont moins exotisantes, moins clichés, voire moins racistes, en fait. Et c'est à partir du Lotus Bleu que Hergé va essayer de se documenter précisément sur les pays dans lesquels il veut faire voyager Tintin. Et il y a un étudiant sculpteur qui vit en Belgique à ce moment-là et qui a le même âge que lui, qui s'appelle Chang Chongren, qui l'initie en fait à la culture visuelle chinoise, à la peinture chinoise, qui lui montre comment on peint, qui va écrire même en fait tous les caractères dans la bande dessinée du Lotus Bleu. C'est pour ça que c'est une bande dessinée.
Alors c'est vrai que dans le Lotus Bleu, on voit que là, c'est pas de l'orientalisme de surface ou de pacotille uniquement. C'est sans doute le génie pictural d'Hergé, c'est qu'il quand même il réussit à s'approprier un certain nombre de codes. Et j'ignorais que c'était parce qu'il avait travaillé en collaboration. En fait,
c'est ça. Donc en fait, la représentation des concessions, par exemple à Shanghai, est assez fidèle à la réalité. Et pas vraiment un produit de son imagination purement. Et la bande dessinée prend même très clairement le parti de la Chine face au Japon à cette époque-là, en retraçant l'incident de Mukden en Mandchourie, avec, qui donne lieu ensuite à l'invasion de Shanghai par le Japon.
Donc tu m'as pris de court, j'aurais pas dû la ramener sur le Lotus Bleu que j'ai pas lu depuis, fou, je dirais même pas quand.
Donc effectivement, mais... on peut concevoir qu'il y ait une lecture un peu politique quand même de la Chine sur cet album-là qui prend clairement parti par rapport
D'accord, ok. Mais en l'occurrence, il y a le côté sino-japonais qui permet finalement de donner une vraie valeur politique aussi à l'album de Hergé. Alors cela dit, je veux juste te dire, hein, parce que maintenant je l'ai dit, donc je vais aller jusqu'au bout au moins de ma pensée, on parle beaucoup de Tintin et de Hergé dans les grandes œuvres populaires, de bandes dessinées un petit peu problématiques, à un certain nombre d'égards, et effectivement avec certains albums ou certaines cases ou certaines planches, franchement raciste, il faut le dire. Moi, j'aime beaucoup Lucky Luke, mais la représentation des Chinois dans Lucky Luke est absolument scandaleuse, par exemple. Je crois qu'on peut le dire aussi. Et
c'est ça.
Je ne suis pas sûr que Lucky Luke soit beaucoup, traduit.
Et puis peut-être que, du coup, le racisme qui ne s'exprime pas envers les Chinois dans le Lotus Bleu s'exprime peut-être encore un petit peu envers les Japonais.
Mmh. Oui, voilà. C'est qu'à un moment donné... Il choisit son camp, mais ça reste très
voilà, il faut quand même bien le replacer dans le contexte.
Très discutable aussi. Hein. Ouais. Ok, très bien. Bah, écoute, donc on était parti du format, parce que j'ai fait un peu dériver la discussion. On va faire une deuxième pause musicale, et là, on présente rien. Je balance le son, et puis on réagira après.
Le ciel est noir. Mais j'y vois clair et la pluie.
Der Regen wäscht uns von allen Sünden.
La vie est flamme, mon amour. Et le vent souffle chaque jour.
Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
Les nuits sont longues, mon amante, comme une ivresse obsédante.
Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit.
Le long du fleuve, mon âme sœur, du haut des cimes aux profondeurs.
Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. De mon âme à ton âme.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 FM. I Love Mes Cheveux avec Norbert Danis, doctorant en études sinophones, spécialiste de bande dessinée chinoise. Et toujours le choix de notre invité, nous écoutions De mon âme à ton âme, Compromat, featuring Adèle Haenel. Et on a entendu, j'ai découvert pour ma part, qu'Adèle Haenel parlait un allemand absolument, enfin qui a l'air absolument magnifique. Alors, outre la juxtaposition du français et de l'allemand, quelques mots sur ce titre, sur ce choix de ce titre. À part, tu as le droit de dire parce que je kiffe ce groupe, hein, c'est pas. Mais...
oui, c'est un groupe assez récent que j'aime bien, qui est composé par deux personnes, Vitalik, qui joue des claviers, il me semble. Et Rebecca Warrior, qui est une chanteuse qui a été assez connue
pour le nom dit quelque chose,
la carrière qu'elle a faite avec Sexy Sushi.
Ah oui, oui, ok, oui, c'est comme ça, parce que j'ai vu passer ce nom-là, je sais.
Et voilà, qui a ce groupe maintenant avec lequel elle tourne et qui vient de sortir un deuxième album, il me semble récemment, que je n'ai pas encore écouté, et dans lequel elle a chanté beaucoup en allemand pour son premier album. Elle ne voulait plus chanter en français, donc...
D'accord.
Donc elle a pris cette piste-là.
Là, on l'entend chanter en français avec donc ses lectures, ouais. Lectures psalmodiées, je ne sais pas comment le dire. Enfin, ses lectures à haute voix d'un texte allemand que je n'ai pas identifié, j'avoue. Mais j'ai essayé de tricher en regardant la description YouTube, mais ça ne m'a pas aidé. Par Adèle Haenel. Donc ça datait d'il y a quelques années aussi, hein, 2019 visiblement.
Oui,
aussi,
c'est ça. Comme ça.
Ok, bah, super. C'était Compromat. Donc on mettra évidemment toutes les références sur la page de l'émission, comme d'habitude. Et donc, on en revient pour cette dernière partie de notre entretien à ton travail. Alors, d'une part, ton travail de spécialiste de bande dessinée chinoise des années 1920 aux années 1980. Et puis, d'autre part aussi, les questions de traduction et ton travail de traducteur. Sur la bande dessinée chinoise, est-ce que c'est beaucoup traduit? Alors moi, j'avoue que je ne suis pas spécialiste et en plus, je n'ai pas bien préparé l'émission, mais j'ai l'impression comme ça, quand je me promène dans les librairies spécialisées, BD Lire à Tours, par exemple, à qui on fait un grand et amical bonjour, je n'ai pas l'impression non plus d'être assailli par des quantités de BD traduites du mandarin. Je me trompe?
Non, c'est totalement vrai. Dans les années 2010, en fait, les maisons d'édition de bande dessinée ont voulu un petit peu surfer sur la vague qui considérait comme étant une vague asiatique en fait de mode de bande dessinée en France avec le succès du manga en fait, de la bande dessinée japonaise surtout, peut-être un peu coréenne également, même si la BD coréenne se vend beaucoup plutôt en format numérique et en format webtoon sur les smartphones maintenant. Et donc, quelques maisons d'édition, il y a une quinzaine d'années, ont créé des labels ou des collections ou même se sont fondées dans le but de distribuer la bande dessinée chinoise en France. Et en fait, ça n'a pas marché. C'est des maisons d'édition qui étaient spécialisées ou des collections qui étaient spécialisées sur la bande dessinée chinoise et qui voulaient en fait recopier un marché qui existait déjà avec le marché de la BD japonaise en France. Et ça a vraiment périclité. Les maisons d'édition, les collections ont fermé les unes après les autres. Les séries de bandes dessinées qui étaient un petit peu publiées se sont arrêtées en cours de publication. Et aujourd'hui, les quelques bandes dessinées chinoises qui nous parviennent sont des bandes dessinées plutôt de la bande dessinée alternative, en fait. Mm-hmm. Qui sont liées à des figures d'auteurs qui développent un art un petit peu différent de ce qu'on voit dans la bande dessinée mainstream, qui était en fait la bande dessinée qui était ciblée par ces maisons d'édition des années 2010.
Alors est-ce que c'est lié? Alors il y a deux choses dans ce que tu as dit, et bon, à la rigueur, même si tu n'as pas le temps là, de donner plein de noms, mais si tu as le temps ou s'il y a des choses qui te viennent à l'esprit, vas-y. Mais sinon, on mettra de toute façon, on fera une petite bibliographie parce qu'on a pas mal de bédéphiles dans nos auditeurs, auditrices fidèles qui voudront découvrir. Donc, s'il y a des choses traduites que tu veux mettre en avant, vraiment fais-le. Moi, j'entends quand même deux choses. J'entends, alors d'une part, peut-être, est-ce que Est-ce que c'est parce que finalement il y a une sorte de fascination, enfin de mode du Japon d'une part, une mode de la Corée d'autre part, et que finalement la Chine trouve pas sa place dedans, ou que en France le public français n'a pas de, j'ai pas l'impression en tout cas qu'il y ait une espèce de China mania comme il y a une Korea mania ou une Japan mania. Et puis il y a aussi le fait que finalement ce sont plutôt les BD alternatives je suppose des marges, je suppose pas très bien vu par le régime chinois, qui arrive chez nous.
Oui, exactement. En fait, les deux questions sont vraiment liées, parce que le soft power que la Chine veut essayer de développer à destination des étrangers, et peut-être même plutôt des jeunes étrangers, elle repose sur des œuvres qui sont très policées, et qui doivent passer la censure, et qui sont utilisés de façon officielle par le gouvernement, quoi, pour proposer une image de la Chine, qui est souvent une image très clichée. Les bandes dessinées qui étaient publiées dans les années 2010, c'était aussi beaucoup des bandes dessinées de fantasy, qui remobilisent un imaginaire de la Chine impériale, qui peut être vraiment, vraiment cliché.
Et en même temps, illisible pour la majorité des Français aussi.
Et voilà, il y a peut-être aussi beaucoup de
référentiels. Et je m'inclus dedans, quand je dis ça. Je suis pas en train de faire parce que j'y connais pas grand-chose.
Peut-être beaucoup de référentiels culturels qui manquaient aux lecteurs et aux lectrices de cette époque-là. Et aujourd'hui, donc, la bande dessinée qui marche un peu mieux, c'est effectivement la bande dessinée plutôt des marges. Alors, on peut penser à une bande dessinée qui est vraiment, que je conseille, qui est vraiment très belle, même si elle est un peu dure aussi. Écrite par un auteur qui s'appelle Seven, c'est son nom d'auteur. Cet auteur habite maintenant à Hong Kong, qui, malgré la répression depuis ces dernières années, reste quand même un petit peu plus libre que le reste de la Chine populaire. Et le titre que vous pouvez lire en français s'intitule Chinese Queer, qui est publié chez Sarbacane. Alors, ce n'est pas le titre original en chinois. Donc là, il y a aussi des volontés de l'éditeur
de monopoliser aussi un public.
De créer une identité de marginale, chinoise aussi. Mm-hmm. Mais c'est une bande dessinée vraiment, vraiment très, très belle, en fait, à tout point de vue.
Je suis en train d'essayer de tricher en même temps en me mettant sur le site web de l'éditeur. Donc ça fait 248 pages, c'est sorti en 2020, j'arrive pas à trouver le nom du traducteur ou de la traductrice.
Et la traductrice est Lucie Mode.
D'accord, ok.
Une traductrice qui traduit plutôt de la fiction, sans images, disons.
D'accord, ok.
Des livres de littérature, et aussi un peu de sciences humaines. Mais c'est d'ailleurs une très très bonne traduction.
D'accord, ok. Je suis en train de regarder en même temps là, les quelques pages qui sont proposées et qui sont sur un format... on va dire me paraît extrêmement classique, extrêmement peu déroutant par rapport au format les plus répandus dans l'édition de bande dessinée.
Oui, c'est un format qui c'est un format qui surprendra pas, c'est de la bande dessinée en planche, c'est plutôt un très grand format d'ailleurs. Bandes dessinées comme celle de Tsoma aussi, qui sont publiées chez Cornelius ou chez Cambourakis, qui sont très belles, qui sont en noir et blanc, un peu plus sur le qu'on pourrait assimiler à de la bande dessinée du réel, un peu plus documentaire, mais en même temps avec des petites bizarreries, des petites étrangetés qui affleurent dans le récit. Et en fait, c'est assez intéressant parce que la bande dessinée qui est de plus en plus vendue en France et qui vient du monde sinophone, c'est plutôt la bande dessinée taïwanaise depuis quelques années. Pour plusieurs raisons, notamment pour des raisons justement de soft power impulsées par le gouvernement taïwanais, qui donne des aides à la traduction, qui promeut ces bandes dessinées.
C'est très vrai de la musique, des séries. On a beaucoup plus de séries taïwanaises qui débarquent sur les plateformes que de séries chinoises.
Et on peut se dire que c'est peut-être aussi parce que c'est un pays dans lequel la création est libre et l'expression est libre, et que finalement les auteurs...
c'est difficile de faire du soft power quand on veut absolument contrôler le message quand même.
Exactement, c'est ça.
Je pense que c'est la moralité à deux balles, je l'admets.
C'est un petit peu ça la contradiction en Chine populaire, ouais, c'est ça.
D'accord, très bien. Bah, écoute, et si tu avais à citer, ne serait-ce que un ou deux noms d'auteurs ou titres même de grands classiques de la bande dessinée, y compris sur la période dont tu es spécialiste, donc des classiques des années 20, des années 50, qui ne sont scandaleusement pas traduits, tu dirais quoi ? Tu citerais quoi ?
Alors, je peux
t'as
en
le
citer...
droit d'en citer 5 ou 6, hein, si tu veux. Mais...
Je peux en citer un qui a été traduit deux fois, mais qui n'est plus disponible, en fait. Donc, scandaleusement, plus disponible. Mm-hmm. qui a été traduit à Angoulême et qui a vu seulement, en fait, deux œuvres plutôt de la fin de sa carrière traduite, qui s'appelle Roy Oje, mm-hmm. Qui gagnerait à être beaucoup plus connu.
Tu me renverras tout ça par mail parce que moi je ne vais pas y arriver.
J'enverrai la transcription et les caractères, même si j'ai cru comprendre que les caractères chinois ne pouvaient
alors,
pas s'apparaître.
Alors oui, les caractères, même les caractères du Guy Coyot aussi, il y a un certain nombre de diacritiques qui passent mal sur la page de Radio Campus, mais bon, c'est pas grave, on renvoie vers des sites où ils apparaissent. Mais oui. Mais sinon, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir mettre les caractères. Mais
et après, il y a d'autres grands noms en fait. Hein, Chang Guangyu par exemple, plutôt dans les années 40. Wang Shuhui, qui est une peintre plutôt des années 50, 60.
Peintre qui donc a fait aussi du roman graphique ou du.
De la bande dessinée, puisqu'à l'époque.
En petit format, là, les
c'est
les
ça,
petits
oui,
formats,
oui.
Là,
oui, oui c'est ça. Donc à l'époque, les dessinateurs et dessinatrices de Lian Huanhua, de bande dessinée chinoise, en fait, ont une formation de peintre. Mm-hmm. Et la distinction entre les deux métiers n'est pas si claire que ça.
D'accord, ok. Donc là, c'est aussi un côté eurocentrique de ma part de dire quoi, peintre, dessinateur, de quoi on parle. En fait, il n'y a pas de. Voilà, y a pas de y a
et
pas
après,
de...
on pourra mettre des liens aussi, puisqu'il y a certaines de ces bandes dessinées qui sont disponibles en scan en fait, sur Internet et qui sont aussi traduites plutôt vers l'anglais. Mais voilà.
On chargera la page à fond. Donc super, bah écoute, très bien. Donc je pense aussi c'est un petit appel, même si cette émission n'est pas extraordinairement écoutée, je pense, par les éditeurs de bande dessinée, mais c'est voilà, un petit appel à se dire qu'il y a là des corpus dont certains sont peut-être d'ailleurs même déjà libres de droit.
Oui, absolument, oui, bah, c'est ça. Moi j'avais trouvé une bande dessinée des années 40. De 1940, il me semble, même si la date de publication n'est pas hyper claire pour moi, à l'année près, d'un auteur qui s'appelle Cheng Guangyi, qui s'appelle La Mer, la bande dessinée, MER, et qui est vraiment mais passionnante et qui, je pense, serait.
Là, c'est toi qui traduis le titre, hein. Le titre n'est pas en français.
Non, le titre, c'est voilà.
Parce que quand on n'arrête pas de naviguer entre les langues dans cette émission, moi-même, je ne m'y retrouve pas. Mais, okay, donc, je t'ai interrompu du coup.
Et c'est une bande dessinée qui gagnerait vraiment beaucoup à être traduite en français, je pense, et à être publiée et qui trouverait son public. Parce que, bon, c'est vrai que parfois, quand même, les bandes dessinées chinoises qui sont un petit peu. Encore dans la matrice de l'opéra ou du théâtre chanté dans les années 20-30, ou qui ensuite sont complètement réappropriés par le pouvoir communiste et qui sont devenus des instruments de la propagande politique.
Là, on parle de ton corpus, on parle de tes objets de travail. Tu es capable de distinguer entre les objets auxquels toi tu t'intéresses en tant que chercheur. Tu es capable de distinguer entre ceux qui seraient popularisables et vendables en France en 2025,
voilà,
et
ça.
Ceux qui sont peut-être un petit peu plus pour spécialistes quand même. Quoi.
Voilà, c'est ça. La mère de Cheng Guangyi est vraiment entre ces deux modèles-là. Et en fait, c'est une aventure très rocambolesque, très drôle, presque chaplinienne, qui serait merveilleuse en français.
Eh bien, écoute, je pense que ça te fait un projet aussi parmi les projets pour le post-thèse de démarcher des éditeurs, mais j'hésiterai pas à envoyer le lien de l'émission, on ne sait jamais, à quelques sites de spécialistes de bande dessinée et même à quelques éditeurs, pourquoi pas, on ne sait jamais. Et puisqu'on parle de traduction, tu traduis aussi un petit peu, alors tu n'as pas de traduction publiée, parce que le sujet de ta thèse n'est pas la traduction, donc ça me paraît tout à fait normal de le rappeler, mais tu traduis actuellement des textes des textes pour un catalogue, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est un catalogue raisonné qui doit paraître dans les prochaines années. je suis volontairement vague, d'un artiste chinois qui s'appelle Huang Yongping et qui est décédé en 2019. C'était un artiste français d'origine chinoise, en fait, puisqu'il a été naturalisé dans les années 90. Il est arrivé en France. Il était un petit peu connu déjà dans les années 80 en Chine. Il avait fondé un groupe de dadaïstes chinois et il est venu à Beaubourg pour une exposition de certaines de ses œuvres en 89 avant Tiananmen. Mmh. Et en fait, il est resté en France. Et sa femme l'a rejoint ensuite. Elle est artiste, elle aussi, Shen Yuan. Et les deux ont continué à produire ensuite en France. Sa femme, maintenant, est en train de compiler en fait, les textes qu'il a écrits sur sa production, sur sa pratique de l'art, sur sa conception de l'art. Et donc, elle les fait traduire en anglais et en français pour faire un catalogue raisonné, trilingue, de cet artiste Huang Yongping, qui est qui a été assez connu quand même dans les années 2000-2010, qui a exposé au Grand Palais, qui a représenté la France à la Biennale de Venise.
On essaiera de trouver deux, trois liens de ces interventions-là et de ces moments forts de sa carrière, en attendant de pouvoir faire la promotion du catalogue raisonné dont tu es partie prenante. Eh bien, c'est super. Bah, écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter, des choses dont tu voulais parler, donc on n'a pas eu le temps d'évoquer, pas spécialement. Un événement qui se déroule prochainement, qui aurait trait à tes sujets d'intérêt. Je ne sais pas si tu fais une communication à un moment donné.
je peux annoncer une communication que je vais faire à Lyon dans deux semaines, qui s'intitule « La bande dessinée chinoise est-elle de la bande dessinée ?» Okay. Avec un titre un peu provocateur, l'avoue.
Donc, si c'est dans deux semaines, là, au moment où on enregistre, ça passe quand même après la diffusion de l'émission de radio ?
Il me semble que c'est le 26.
C'est le jour où, c'est trois jours après la diffusion. Donc on essaiera de mettre l'émission en ligne, vraiment le podcast en ligne le 23,
oui.
Histoire de taguer tous les amis lyonnais et lyonnaises qui pourraient venir t'écouter.
On pourra taguer toutes les personnes qui pensent que la bande dessinée chinoise au XXe siècle n'est pas de la bande dessinée parce qu'elle n'a pas de bulle et il n'y a pas plusieurs images sur la page.
D'accord, voilà. Donc je sens que poser la question, c'est déjà y répondre pour toi. On a déjà un peu la réponse. On n'a pas entendu la communication et donc il nous manque l'essentiel. Mais j'ai l'impression que tu as déjà la réponse à la question.
Voilà, c'était l'idée.
Oui, c'est de la bande dessinée parce que ça n'en est pas si on a une définition trop restrictive et aberrante de la bande dessinée.
Trop restrictive, restrictive dans l'espace et dans le temps. Et comme si les médiums en fait n'étaient pas des choses mouvantes qui s'actualisaient dans des formes très différentes selon les pays, selon les époques. Moi, l'idée c'est un petit peu de faire éclater ce cadre-là aussi.
Alors, je me demande quand même si même en restant dans le franco-français, si les concepts de livres documentaires, de livres graphiques documentaires, de romans graphiques, etc. n'ont pas été un petit peu créés pour justement essayer de s'adresser aux personnes qui avaient une vision trop restrictive de ce qu'est la bande dessinée.
Oui, totalement.
Il y a d'un côté Lucky Luke et de l'autre côté des choses plus novatrices. Alors qu'en fait, le terme bande dessinée pourrait très bien tout recouvrir. En fait.
Ah ben voilà, moi c'est
l'idée défendre.
Et on pourrait faire éclater les cadres, pas uniquement en allant vers la Chine, mais en allant vers ce qui se fait de façon très contemporaine en France, mais aussi de façon très ancienne en Europe, dans les années 1830, à la Belle Époque, dans les années 20. Il y a des œuvres qu'on rattache aujourd'hui à la bande dessinée, qu'on n'appelait pas bande dessinée, qu'on appelait roman en estampe, qu'on appelait illustré aussi, même jusqu'aux années 50, mais qui font partie du 9e art, quoi.
Tout à fait, absolument. Ben voilà, donc c'était quand même important de rajouter ça finalement. Et le générique de fin est à nouveau le choix de notre invité, mais on va en parler dans quelques instants. Alors vous écoutez bel et bien Souad Massi, que vous avez reconnu je pense pour la plupart d'entre vous. J'ai un peu de mal à parler par-dessus Souad Massi. Je pense que je rediffuserai la chanson juste après la... Enfin, vous aurez deux génériques, quoi. Je vais le mettre deux fois, je crois, parce que là, je blablate et j'aime pas ça. Mais tout ça pour dire que nous vous remercions d'avoir écouté la 16e de I Love Mes Cheveux, et merci beaucoup à Norbert Danis.
Merci à toi.
Ben voilà, donc c'était sympa. Moi, j'ai appris plein de choses et je pense que nos auditeurs ont appris beaucoup de choses aussi. Et c'est déjà la deuxième émission dans laquelle on parle du chinois. Le mois dernier, j'avais invité deux étudiantes de première année en LEA anglais-chinois. Et je pense qu'il y aura d'autres émissions autour du chinois dans la saison 2025-2026. J'ai déjà 2-3 pistes. Et je dis ça, évidemment, la langue qu'on écoute n'est pas du mandarin. Juste pour les personnes qui vraiment seraient très, très confuses ou pas bien réveillées.
Oui, la langue qu'on écoute, c'est pas le mandarin, c'est l'arabe.
Oui, absolument. Et c'est Souad Massi, parce que j'ai fait comme si tout le monde connaissait. Mais s'il y en a qui ne connaissent pas Souad Massi, on est très heureux de la faire découvrir.
Elle chante en arabe, elle chante en français. Et là, à la fin de cette chanson, elle chante aussi en espagnol.
D'accord, très bien. On aura peut-être le temps d'écouter ça après mes dernières paroles. Donc encore merci Norbert Danis pour toute réaction, demande, suggestion, pour participer à l'émission. Le compte Insta est là, ILMC 2025, tout attaché. Sinon, je m'appelle Guillaume Singal, je suis enseignant à l'université de Tours, on peut retrouver facilement mon mail. Bonne semaine à l'écoute du 99.5 FM.
Es posible que sea la última vez que cante tu nombre, el tiempo y tu voz serán testigos. El tiempo y tu voz serán testigos.